En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes, bienvenue dans La curiosité est un vilain défaut sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va super, un très beau programme aujourd'hui.
Un très beau programme. Tiens, on va vous raconter l'histoire d'un homme qui savait raconter et dessiner des histoires, Hergé.
Et puis des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire. Par exemple, le chevalier de Saint-Georges, surnommé le Mozart noir, ou encore le général Dumas qui inspira Porthos à son fils dans Les Trois Mousquetaires. Le point commun, ils venaient d'outre-mer et l'histoire les a oublié.
RTL.
Je suis Toussaint Louverture.
Il était surnommé le George Washington noir. Il a combattu les armées de trois empires et défié Napoléon Bonaparte.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Alexandre David de la Pailleterie, né à Saint-Domingue, est le premier général de l'armée française ayant des origines afro-antillaises. Il s'engage en 1786 sous le nom de sa mère, Dumas.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce sont des figures remarquables de notre histoire et pourtant on ne nous a pas enseigné leurs faits d'armes à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été victimes du racisme. Claude Ribes, vous êtes philosophe, vous êtes historien, cinéaste, vous consacrez un livre à ces héros français méconnus. Ils vivaient il y a 2-3 siècles et on les a oubliés. Pourquoi ?
2-3 siècles et même plus récemment, oui. Pour certains. On les a oubliés parce que les préjugés ont la vie dure. Mmh. Et cette mise en lumière de ces personnalités oubliées ou occultées nous amène aussi à réfléchir sur la persistance des préjugés à notre époque. En ces temps, on parle d'identité nationale. Ils font aussi partie de notre identité. Ils faisaient tâche pour certains à leur époque. Ils font tâche pour certains encore aujourd'hui. Mmh. Il me semble temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça, en tout cas un peu de lumière.
Session de rattrapage donc, on en a besoin. On va raconter le destin de ces femmes et de ces hommes. On commence par un nom très connu, c'est Dumas, le général Dumas. C'est le père d'Alexandre, l'écrivain ?
Alors le général, oui, c'est le père d'Alexandre. Il y a peu de gens qui savent qu'il y avait trois Dumas, en fait. Et c'est un pseudonyme, au départ, que prend le général Dumas pour s'engager, qui va être repris par son fils et puis par le petit-fils. Donc il y a trois Alexandre Dumas.
Parce que le général Dumas, c'est un combattant de la Révolution française, c'est ça ?
C'est un combattant de la Révolution française. On dit parfois c'est un combattant de Napoléon. Non, bien de la Révolution. Et il doit sa carrière extraordinaire à cette espèce de bouffée d'air frais qu'il y a eu pendant la Révolution et qui lui a permis de devenir général.
Il est né esclave, le général Dumas, où ?
Il est né à Saint-Domingue, dans la colonie française de Saint-Domingue, qui est devenue depuis la République d'Haïti, qui était ce qu'on appelait la perle des Antilles. C'était le fleuron de nos colonies qui, effectivement, exploitait pas mal de gens. Et sa mère était une esclave.
C'était un colosse. C'est comme ça que vous le décrivez dans votre livre Une autre histoire, publié au Cherche Midi. Il ressemblait à quoi, ce général Dumas ?
Écoutez, c'était un colosse, à n'en pas douter. Il avait une force physique assez extraordinaire, certainement moindre que ce que son fils a bien voulu dire, parce que bon, il a un petit peu exagéré. Alexandre,
c'est un romancier.
Il romance. Alors, il décrit les exploits de son père comme si c'était une espèce de Superman, hein, véritablement.
Mais il l'a inspiré, son fils ? Les exploits du général Dumas ont inspiré Alexandre Dumas.
Je pense que quand on a un père comme ça, ce père est dans tous les romans. Pour moi, le général Dumas, il apparaît dans les romans les plus connus.
C'est-à-dire que c'est l'un des mousquetaires.
C'est D'Artagnan. Ben, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, il avait dans son régiment trois amis inséparables.
Et puis, il avait un ennemi aussi, c'était le général Bonaparte, pourquoi ?
Oh bah écoutez, déjà, il y avait sûrement un complexe de taille.
Vous voyez ce que je veux dire.
Bon, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur petite taille, qui vivent très mal. Bon, moi, je vivrais bien si j'étais petit, mais enfin...
Mais vous êtes Bonaparte, grand, vous pouvez parler, mais...
Oui, le général Dumas était très grand.
C'est trop facile.
Et
au-delà de ça, il y avait une compétition.
Il y a une compétition, il y a une rivalité d'officiers. Il ne faut pas oublier que quand le général Dumas commande une armée, général d'armée, il a 17 généraux sous ses ordres, il commande l'armée des Alpes, Bonaparte n'est encore que commandant. Et là, ils entrent véritablement en rivalité sur le front des Alpes. Bonaparte rêve de conquête, il commande d'une certaine manière une armée qui est limitrophe, si j'ose dire, de celle du général Dumas. Tous deux veulent se couvrir de gloire en Italie, mais il y a évidemment une compétition.
Alors le général Dumas, tel que vous nous le décrivez, c'est une figure de notre histoire, très clairement. Un général révolutionnaire. On va passer quelques étapes qui a été finalement mis de côté, notamment par Napoléon. qui a fait voter une loi interdisant aux Noirs d'avoir des grades dans l'armée.
Alors il y a deux arrêtés secrets au moment en 1802 au moment du rétablissement de l'esclavage et de la perte de Saint-Domingue. Mm-hmm. Effectivement, il y a deux arrêtés consulaires qui sont secrets, ça veut dire qu'ils n'ont pas été publiés, mais qu'on peut consulter aux archives de l'armée, qui sont incroyables parce qu'ils organisent sur un critère racial la mise à l'écart des officiers noirs ou de couleur et non seulement la mise à l'écart, mais l'assignation à résidence. Donc, pour les plus noirs, on les met dans deux villes de France. Et pour ceux qu'on appelle les hommes de couleur, ils doivent être dans un périmètre qui est à peu près de 150 à 200 km autour de Paris. Donc ils ne doivent pas être à Paris. Ce qui fait que le général Dumas doit demander, lui qui habite à l'époque Villers-Cotterêts, l'autorisation de résider chez lui. Non seulement il est viré de l'armée, mais en plus il doit demander l'autorisation d'habiter là où il habite. Alors c'est un petit peu discriminatoire quand même.
On peut le dire, alors que c'était un héros de l'armée révolutionnaire. Autre destin à découvrir dans un instant sur RTL, celui du chevalier Saint-Georges. Alors lui, il fut une célébrité à la cour de Louis XVI. On vous raconte son histoire et comment finalement on devrait peut-être s'en souvenir aussi pour ses talents de compositeur.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils ont le plus souvent disparu de l'histoire de France officielle et pourtant leurs exploits et leurs talents mériteraient qu'ils figurent dans nos manuels scolaires. On découvre le destin de ces Français d'outre-mer, oubliés, victimes du racisme, avec notre invité, l'historien Claude Ribes. On va raconter une autre histoire, l'histoire du chevalier Saint-Georges. Alors, il a vécu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était originaire d'où ?
Il est originaire de la Guadeloupe. Il est un peu comme le général Dumas, fils d'une femme qui est esclave et d'un aristocrate, mais qui est un aristocrate, en fait, plutôt un bourgeois qui aspire à l'aristocratie. Alors, il n'est pas déclassé comme le père du général Dumas, mais c'est un homme qui, finalement, a quand même pas mal de problèmes à cause de ses origines, mais aussi de sa religion.
En tout cas, ce chevalier Saint-Georges va devenir l'un des personnages les plus importants de la cour de Louis XVI à Versailles. Il arrive comment et quand à Paris ?
Il arrive avec ses parents. Assez curieusement, les parents arrivent très unis, hein, l'ancien esclave et le maître. Ils vont s'installer à Paris vers 1755. Et puis le petit garçon, il grandit avec ses parents dans ce Paris, au départ, qui est le Paris de Louis XV. Et le père lui fait donner une très bonne éducation. Il a des moyens. Ce garçon va être assez intégré dans cette société de la fin de l'Ancien Régime. Surtout sous Louis XVI, il va devenir une figure des jeunes nobles de Versailles.
Mais comment ?
Pour deux raisons, parce qu'il excelle dans deux disciplines. Il est d'abord un excellent sportif, il est escrimeur à une époque où c'est l'apanage de la noblesse, avec aussi le fait qu'il y a des duels. Donc on inspire le respect quand on manie bien l'épée. Donc il devient un excellent escrimeur. Et puis aussi, il est un violoniste virtuose. Il joue très bien du violon, il compose de la musique. Et c'est surtout sous cet aspect-là qu'on l'a un petit peu négligé, parce qu'il nous a laissé des compositions tout à fait intéressantes, qui ne sont pas à mettre en comparaison avec... comme on l'a fait un peu trop souvent avec d'autres
grands
compositeurs de ce temps, nécessairement, mais enfin qui sont très originales.
Parce qu'on l'a surnommé le Mozart noir, et c'était peut-être une charge un peu trop lourde sur ses épaules, mais on aurait pu aussi interpréter un peu plus peut-être ses compositions. Tiens, on va écouter un court extrait de l'un de ses concertos. Il y a une influence de Mozart quand même.
Et c'est plutôt l'inverse. C'est
plutôt
l'inverse, et oui, parce que bon, c'est un fait de générationnel. Bon, il est un petit peu plus âgé. Mmh. Si ma mémoire est bonne, il est né en 1745 et Mozart en 1756 à Salzbourg.
Vite ouais. Que Mozart a tout pompé sur
Mozart et son cadet. Et c'est plutôt Mozart. C'est plutôt Mozart qui s'est inspiré. Et c'est normal, quand il vient à Paris en 1778, Mozart est inconnu. C'est l'inverse par rapport à aujourd'hui.
D'accord. Okay.
Mozart est inconnu. Il donne des leçons de musique. Mais alors... Saint-Georges est une célébrité.
Et pourquoi Saint-Georges n'est pas un compositeur dont on entend les œuvres régulièrement en France. Écoutez, c'est là que le racisme s'exprime pour vous.
Je ne voudrais pas mettre tout sous les qualifications du racisme. Il y a des raisons objectives qui font que la musique allemande a été très, très copiée, très imprimée, ouais. Donc beaucoup mieux diffusée. Mm-hmm. Il y a des œuvres de Saint-Georges qui sont encore manuscrites. Donc il y a un problème de diffusion des œuvres. Et puis aussi, effectivement, il y a un préjugé. On a toujours considéré que Saint-Georges est un musicien léger. On dit oui, c'est de la musique un peu légère, etc. Et ça, c'est probablement lié à son origine.
Il se régale, il régale les foules et les nobles à la cour de Louis XVI. C'est aussi le confident de la reine Marie-Antoinette. Est-ce qu'il a été victime de racisme à son époque ?
Oui, il y a eu un moment, et c'est peut-être d'ailleurs le premier épisode de discrimination avéré en France. À un certain moment, il candidate pour être directeur de l'opéra, et il y a trois demoiselles de l'opéra, dont cette chanteuse, qui disent « Non, c'est pas possible, on peut pas être sous la coupe de ce monsieur qui est un mulâtre, et on serait déshonoré de servir sous ses ordres ». Donc ça a probablement une influence, parce que finalement, il n'est pas nommé, donc il y a quand même un problème. Même malgré la protection de la cour et de la reine en particulier, il n'arrive pas à avoir ce poste.
Claude Ribes, le chevalier Saint-Georges meurt à Paris en 1799. Comment a-t-il vécu les années révolutionnaires ?
Alors là, il y a une autre partie de sa vie. Il avait une formation militaire. Il avait servi dans un prestigieux régiment de cavalerie à Versailles, les gendarmes de la garde. Et grâce à cela, il est propulsé colonel en 1792 d'un régiment qui était essentiellement composé de coloniaux. Et dans ce régiment, va être amené à amener des actions offensives contre les Autrichiens. Mais il est quand même pas un révolutionnaire très, très acharné. C'est un peu un homme d'ancien régime. Et il va être enfermé pendant une année. Il risque même à un certain moment de passer à la guillotine. Mais ça s'arrange.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
Mon nom est Joseph de Bologne. Mais on m'appelle le chevalier de Saint-Georges.
La curiosité est un vilain défaut.
Voici l'histoire d'un grand compositeur du XVIIIe siècle qui obligea la France des Lumières à accorder ses violons.
Jusqu'à 22h.
Bien qu'on ait plus d'une fois prétendu le contraire, je crois bien être né esclave, moi aussi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qui connaît le général Dumas, père des deux Alexandres et surtout héros de la Révolution française, le chevalier Saint-Georges, compositeur émérite, dont on entend les notes ? Qui connaît Toussaint Louverture, Cyril Lisset ou Laitière, autant de destins français auxquels notre invité Claude Ribes consacre un livre passionnant publié au Cherche Midi. On va parler aussi des femmes qui ont été victimes de ces préjugés. Par exemple, cette petite fille qui naît le dimanche 16 novembre 1664. Sa mère s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche, son père Louis XIV. Et pourtant, son destin ne sera pas princier. Pourquoi ?
Déjà, sa naissance suscite quelques émois. Les naissances royales sont publiques, ça se passe au Louvre. Et tout le monde, il y a un frémissement, parce que quand on voit la petite fille, on trouve qu'elle est un peu colorée. Et ça, ce ne sont pas seulement des rumeurs, ça a été attesté par des témoins. Et très récemment, j'ai retrouvé un témoignage aux archives, grâce à un ami, aux archives de Chartres. C'est le confesseur de la reine qui dit oui, elle était un peu mauresque, elle avait les lèvres un peu grosses et le nez un peu. Et puis bon, et puis un teint quand même un peu. Alors officiellement, elle meurt, cette petite fille. Officiellement, elle meurt. Il y a des rumeurs, tout le monde.
Il y a même un acte de décès, c'est ça
Oh, bah, vous savez, c'est la raison d'État.
Oui, c'est alors, facile de...
Y a, dans le journal officiel de l'époque, on dit qu'elle est morte, mais il y a une rumeur, on dit qu'on l'aurait fait disparaître, que le roi l'aurait mise à l'écart grâce à son homme de main, son agent secret, hein, qui est son premier valet de chambre, qui est son seul ami d'ailleurs. Et puis, quelques années plus tard, 20 ans plus tard, quand on voit apparaître dans un petit couvent qui est proche de Fontainebleau, une mystérieuse religieuse qui a la peau brune, ça choque, surtout que la cour vient très régulièrement lui rendre hommage.
Claude Ribes, c'est qui le père de Marianne ?
On ne sait pas très bien. Est-ce que c'est cette petite fille qui n'a pas survécu officiellement, mais qu'on a mise de côté ? Ou alors, est-ce qu'il y a deux filles, l'une qui effectivement serait décédée, comme on l'a dit, et puis une autre qui aurait elle aussi une origine royale. Parce qu'il y a un personnage qu'on peut quand même croire, il n'est pas spécialement négrophile d'ailleurs, il s'appelle Voltaire, qui va, comme vous le faites, l'interviewer. C'est-à-dire qu'il entre, Voltaire entre.
Au couvent ?
Dans le couvent, il va la voir. Et il en atteste, c'est publié dans son Histoire du siècle de Louis XIV, et il dit c'est le portrait craché de son père, c'est-à-dire du roi. Voltaire nous dit, voilà, j'ai discuté avec elle, je l'ai vue. Il a pu entrer grâce à un ami, M. de Caumartin, et il dit, c'est le portrait de Louis XIV.
Et si c'est pas Louis XIV, c'est qui ? Que dit la rumeur ?
Bah, la rumeur, elle dit plein de choses. C'est une des énigmes les plus passionnantes de notre histoire. Ça fait 3 siècles qu'on en parle. On n'a pas encore réussi à trancher. Bon, moi, j'ai ma petite idée, je la développe dans le livre. Ce qui est certain, c'est que ces deux personnages ont existé, la petite princesse et puis cette religieuse dont il n'y a pas de doute. On peut dire qu'elle avait un lien privilégié avec la famille royale.
Mais alors, vous en parlez dans votre livre, une autre histoire publiée au Cherche Midi, il y avait un mort dans l'entourage du roi à la cour, qui s'appelait Nabo, c'est ça ?
On a dit effectivement que le page qui était nain de la reine Marie-Thérèse aurait pu être le père, c'est bien possible. Il est bien possible aussi que la religieuse...
Elle était un peu délaissée par son roi de Marie.
Elle était un petit peu délaissée, c'est moins que l'on puisse dire. Il aimait les femmes, il ne s'en cachait pas, il avait beaucoup de conquêtes, et lorsqu'elle l'a appris, ça correspond à peu près aux 9 mois qui ont précédé la naissance de la petite. Donc on peut se poser toutes sortes de questions, mais c'est peut-être pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé sur ce dossier et avec un ami, on a découvert 2 portraits. C'est un scoop. Hein. On a retrouvé 2 portraits qui viennent compléter le 3e qu'on connaissait, qui est à Sainte-Geneviève. Dans 2 musées de France, à Remiremont et à Melun, il y a un portrait de cette religieuse. Et là, on voit, contrairement au portrait qui est le plus connu, qui était à la bibliothèque Sainte-Geneviève, que c'est plutôt une métisse. Donc, on peut se poser des questions. Et sur l'un des 2 portraits, on dit explicitement que c'est la fille de Louis XIV. Mmh. Voilà, mystère de l'histoire de France.
Son nom de bonne sœur,
la Mauresse de Moret.
Louise-Marie de Sainte-Thérèse.
Louise-Marie de Sainte-Thérèse.
Voilà. Autre destin de femme raconté dans votre livre, Claude Ribes, celui de Fortunée Hamelin. On l'a surnommée, attention, la merveilleuse du directoire. Elle a donc vécu à Paris à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. D'où elle était originaire ?
C'est le même scénario, elle était originaire de Saint-Domingue, mère esclave, elle légitimée d'une manière, en s'arrangeant avec l'état civil par le père, et puis ramenée à Paris, un père qui avait quand même beaucoup de moyens, qui la marie très vite, mais alors elle arrive après la Révolution, après la terreur, après cette période terrible qui avait beaucoup frappé les esprits, qui avait donné à la jeunesse une envie terrible de s'amuser,
de
faire la fête. Et là, il y a des fêtes absolument incroyables. Il y a une période qui est très intéressante, qu'on connaît très mal d'ailleurs, où les fêtes explosent, les gens deviennent fous, ils s'habillent un peu n'importe comment.
Et elle, c'est l'une des reines de la fête à Paris, c'est ça ?
Elle est numéro 1 dans ce... Alors vous parlez de...
C'est la Cathy Guetta de
l'époque. Vous parlez de son surnom, mais elle en avait un autre. C'était aussi dans les superlatifs, un peu comme RTL. On la surnommait le plus grand polisson de France.
Ah, c'est joli.
C'est joli quand même comme surnom. Et alors elle se jette à corps perdu dans ces fêtes dont elle est la reine incontestée.
Et elle plaît aux hommes de pouvoir, Fortunée Hamelin ?
Oh bah elle fascine, elle plaît, elle déplaît. Alors bon, elle a ses origines qui se voient un peu, donc il y a des gens qui sont méchants, qui disent « Oh, mais elle a un nez de nègre, voilà. » Mais bon, on peut juger de son physique par un superbe portrait qui est au musée Carnavalet, qui montre une femme qui est très belle et qui est très moderne dans sa coiffure, la Titus, comme c'était la mode, et dans sa prestance.
Fortunée Hamelin, c'est l'un des visages que l'on découvre, l'un des portraits qui est sur la couverture de votre livre.
C'est pour moi l'un des plus attachants.
Et on est bien d'accord, ce livre titré « Une autre histoire » est publié au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu sur RTL. 1 000 000 de 1 000 sabords, mais comment Georges Rémy est-il devenu Hergé ? Pour le savoir, c'est maintenant sur RTL.
Pachibouzouk !